Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, le Conseil des droits de l'homme suspend ses travaux en raison du coronavirus. Situation toujours alarmante dans le nord-ouest de la Syrie. Le Mozambique a toujours besoin de financement pour la reconstruction un an après le cyclone. Et en dossier, nous nous intéresserons à l'impact économique du Covid-19 avec la CNUSED. Le coronavirus continue de perturber le système multilatéral. Au siège de l'ONU, le secrétaire général a décidé d'annuler tous les événements organisés en marge des réunions du système des Nations Unies. À Vienne, le personnel des organisations internationales travaillera depuis chez soi à partir de lundi. Et à Genève, c'est le Conseil des droits de l'homme qui a décidé de suspendre sa 34e session. On écoute la décision prononcée par le Conseil par la voix de sa présidente, Elisabeth Tichy-Filsberger.
The Bureau agreed to put forward to the Council for its approval the following.
D'accord pour présenter au Conseil pour approbation les propositions suivantes. Suspension de la 43e session du Conseil des droits de l'homme le 13 mars jusqu'à nouvel ordre. Avant la suspension de la session, le Conseil continuera ses travaux comme nous le faisons ce matin et continuera d'adopter les rapports de PU qui étaient prévus pour cette session aujourd'hui et demain. Pour ce qui concerne le débat annuel sur la discrimination raciale, celui-ci se tiendra une fois qu'on aura terminé l'adoption des rapports de PU et reporter tous les autres débats de plénière jusqu'à la reprise de la 43e session. Donc, si le Conseil en est d'accord, nous allons suspendre la 43e session du Conseil des droits de l'homme le 13 mars jusqu'à nouvel ordre. Je ne vois pas d'objection, il en est ainsi décidé.
Alors que la Syrie entre dans sa 10e année de conflit, la situation dans le pays demeure inquiétante. C'est ce que rappelle OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Même si l'annonce d'un cessez-le-feu à Idlib par la Turquie et la Russie le 6 mars dernier a conduit à une diminution du niveau général de violence, la situation reste alarmante dans le nord-ouest du pays, où quelques 960 000 personnes ont été déplacées depuis décembre dernier. La plupart d'entre eux sont des enfants et des femmes. Les précisions de Jens Larquet, porte-parole d'OCHA à Genève.
On a vu une baisse de la violence, on n'a plus de rapport des frappes aériennes, des bombardements près des lignes de front continuent, c'est-à-dire Idlib n'est pas une zone sécurisée pour les civils. Les besoins humanitaires continuent à augmenter et il faut faire face à ça avec encore plus d'aide, encore plus de camions qui traversent depuis la Turquie. Les besoins sont vraiment dans tous les domaines, tous les secteurs humanitaires. Pour l'instant, je crois que c'est la protection des civils qui sont les plus importants. Il n'y a pas une grande présence des humanitaires sur le terrain. Il y a toujours beaucoup de militaires. Et nous sommes très inquiets par rapport à la situation, particulièrement pour les femmes. Nous avons eu des rapports des femmes qui sont extrêmement traumatisées et les enfants, leurs enfants, qui sont mal nourris aussi. La situation reste extrêmement alarmante.
Un an après que le cyclone Idai ait dévasté une grande partie du centre du Mozambique, le manque de financement pour la reconstruction empêche de nombreuses personnes de se remettre sur pied. C'est ce qu'indique le PAM, le Programme alimentaire mondial. Le mois dernier, le manque de fonds a contraint l'agence onusienne à réduire de moitié ses rations alimentaires, un appui vital qui risque d'être complètement interrompu si le financement ne suit pas. Les explications d'Elisabeth Bierce, porte-parole du PAM.
Il nous manque du financement. Les petits fermiers qui bénéficiaient de cette subsistance ne vont plus rien recevoir. Le Programme alimentaire mondial a besoin de 91 millions de dollars pour continuer son programme d'aide au projet de réhabilitation pour les victimes de ce cyclone. C'est extrêmement important que les donateurs puissent entendre ce cri d'alarme parce que la malnutrition au Mozambique est un problème qu'il faut régler le plus vite possible et de façon urgente. On constate qu'au centre du Mozambique, il y a des régions qui sont carrément en période d'urgence en ce qui concerne la sécurité alimentaire. On constate qu'il y a une malnutrition chronique chez 43% des enfants de moins de 5 ans. C'est un des taux de malnutrition les plus élevés au monde. Et la malnutrition aiguë est également en train d'augmenter. Il y a actuellement 1,8 million de personnes qui reçoivent de l'assistance d'urgence avec le programme alimentaire mondial et nous souhaitons que le financement arrive au plus vite afin que nous puissions reprendre la totalité de nos programmes.
La pandémie de coronavirus n'est pas sans impact sur l'économie mondiale et les économies des pays en développement risquent d'être fortement touchées. C'est ce qu'alerte la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Les explications de Stéphanie Blackenberg, chef du service de la dette et du financement du développement à la CNUSED.
Ça, c'est pas seulement la CNUSED, c'est aussi l'FMI et la OCDE, par exemple, qui pensent qu'en 2020, on sera par-dessous de 2,1% de croissance globale. Et le 2,1%, c'est à peu près à niveau global. Ça, c'est l'équivalent de la récession à niveau national. Donc là, il y a très peu de doute.
On sait que la Chine est aussi devenue une importante source de financement pour les pays en développement, mais avec quelles conséquences doit-on redouter une crise de l'endettement ?
Là, il y a plusieurs facteurs. D'un côté, il y a le rôle de la Chine comme source de financement à long terme, surtout du développement. Dans beaucoup de pays, par exemple, des pays pauvres en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Asie. Ça, on ne sait pas exactement si la situation en Chine, si la Chine se tourne plutôt vers son économie nationale, les marchés chinois même, etc., si ça affectera forcément leur financement, leur plan de financement pour le développement ailleurs. Ça, c'est pas clair, mais ça pourrait être le cas. Et dans ce cas-là, évidemment, les pays affectés se trouveront dans une situation très difficile. Mais avant ça, parce qu'on ne sait pas exactement, avant ça, le souci principal est le suivant. Les pays en développement affectés, à travers d'un choc d'offre, à travers d'un choc de demande, à travers d'un ralentissement de la croissance globale, est-ce qu'ils ont les réserves internationales pour survivre. Ça veut dire n'importe quel pays peut s'arranger avec un choc exogène, ça veut dire un choc comme le virus que personne n'a attendu mais qui est de nature temporaire. Si vous avez des réserves internationales suffisamment élevées pour financer, disons, le paiement de la dette, pour financer d'autres dépenses en monnaie internationale. Ça, à notre avis, ça c'est pas le cas pour la plupart des pays en voie de développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce choc exogène d'un virus frappe une économie globale qui est déjà très affaiblie. Ça veut dire que c'est une économie où la croissance a été assez modeste, où il y a relativement peu de nouveaux investissements, ce qu'on appelle en anglais le Greenfield FDI, où il y a eu beaucoup de spéculations financières, beaucoup d'appréciation dans les bourses, mais pas forcément en fort développement de productivité et de l'emploi.
Dernière question. Finalement, que recommande la CNUSED pour éviter cette crise à plusieurs milliards de dollars?
Bon, à notre avis, il faut vraiment d'actions coordonnées entre les gouvernements des pays avancés. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la politique monétaire n'est pas le seul moyen pour combattre des crises pareilles. Donc il faudrait vraiment un virement maintenant vers la politique budgétaire pour invertir directement de la part des États, des gouvernements, dans l'investissement public. Ça veut dire dans le secteur de la santé, mais pas seulement de la santé, aussi des autres secteurs stratégiques et importants des économies. Ça peut être des secteurs divers entre pays avancés et pays développés, sous-développés ou en voie de développement. Mais il faudrait cette action, cette initiative concertée et coordonnée entre surtout les gouvernements des pays avancés pour faciliter la récupération de l'économie mondiale. En plus, il faudrait des initiatives claires en des organisations économiques internationales comme le FMI pour assurer qu'il y a suffisamment de liquidité dans l'économie globale. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Déjà, on a noté que le FMI a mis à disposition un paquet de, je pense, 50 milliards de dollars pour combattre les effets de ce choc exogène. Mais par contre, il faudrait peut-être penser qu'il y a des effets à plus long terme, surtout dans des pays déjà surendettés développés, et de mettre en marche des mécanismes qui pourraient assurer une liquidité internationale suffisamment indépendante du dollar, suffisamment élevée.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.